La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck. Barge Russe 492. Espace-temps interconnecté. Je vais revenir sur un point de la barge russe 491, la précédente, qui est si évidente, et pour cette raison que j'ai mis du temps à trouver, que se poser des questions pour sentir et comprendre ce qui nous entoure, et ça c'est le fer de lance des barges russes, est venue la télépathie dans la barge russe 491. La télépathie qui en découle est la communication qui nous approche, qui nous fait appartenir au côté invisible et qui nous fait qui fait l'interconnexion qui est entre nous. J'ai été waouh quand j'ai découvert ça. Bon après la télépathie c'est pas forcément encore c'est pas Monsieur Spock tu vois non. La télépathie, c'est sentir les choses. C'est pas je pense une chose et tu vas tout de suite savoir ce que je pense. Non, c'est du feeling aussi. Tu vois, c'est faut mesurer les mots. C'est des questions de point de vue aussi, tu vois. Mais c'est comprendre ce qui se passe autour de nous. D'accord ?
Sentir, plutôt.
À présent, ayant quitté le port de la réalité avec un grand R, je vous emmène dans la zone des perturbations sur ma barge russe. Que l'on appelle aussi le triangle des Bermudes. Alors ça y est, nous sommes arrivés près de Cuba, nous sommes au-dessus le mur de Cayo Inés de Soto, où il y a un mur qui a été découvert sous la mer à 450 km, je ne sais plus, enfin, profond, très profond. 400, ouais, c'est peut-être ça, 400 km. C'est possible. Bon, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, un mur a été découvert là. On est au-dessus. Et peut-être 450 mètres. 450 mètres plutôt. Ouais, c'est peut-être ça plutôt. Et donc, on est là. On est au-dessus. Et j'ai, avant de partir, j'étais encore sur le continent. J'ai essayé de chercher des trucs, des informations. Et toutes les informations concernant ce point géographique ont été enterrées par l'armée soviétique de 1968, Khrouchtchev, pour des questions politiques et de stratégie militaire. Car on était en pleine guerre froide, hein, 68, et même les Américains, ils ont caché pas mal, ils cachent. Hein. Donc, il existe une conspiration du silence, en plus, chez les scientifiques, qui redoutent de partager une vérité. Alors laquelle vérité, j'ai quand même creusé vachement, celle qui pourrait être la preuve de la naissance d'un nouveau monde. Ça reste, pour des scientifiques, ça reste un petit peu. Et la mort d'un autre que la nature aurait déjà condamné. Alors on se pose, bon, là je me suis posé des questions, de quelle époque il parle? Est-ce qu'il parle de cette vieille cité dont il est préférable de taire le nom, qui n'a peut-être jamais existé, qui aurait été l'ancien, pour arriver à aujourd'hui le nouveau, ou bien est-ce que c'est nous, notre monde actuel qui est mort et qui va laisser place à un nouveau continent? J'ai pas, là par contre, j'ai pas eu les informations, j'ai pas réussi à trouver. Et comme je vous dis, les soviétiques et les Amerlocs, ils ont tout enterré, étouffé. De plus, leurs découvertes sont étouffées par les gouvernements, car les phénomènes observés dans cette zone de perturbation, le triangle de Bermude, on en a tous entendu parler, j'espère, n'ont jamais représenté de danger pour personne, à vrai dire. Bon, il y a eu des sous-marins atomiques qui ont disparu, des avions de chasse, mais c'était des trucs militaires, quoi. Donc, sans danger réel pour nous, honnêtes citoyens. Les perturbations qui sont dans le triangle proviennent de fissures terrestres, d'où coulent les quantités de lave des entrailles de la Terre. Voilà, ça c'est une explication scientifique. Une autre, c'est des champs magnétiques, présence de champs magnétiques. Donc c'est une explication scientifique. Et en même temps, les champs magnétiques, comme je disais dans la barge russe 491, ça appelle autre chose, ça appelle le côté invisible, comme je vous disais. Et aussi, c'est peut-être des radiations cosmiques de grande énergie provenant de l'espace intersidéral. Who knows? Alors, est-il scientifiquement possible de concevoir une sorte de couloir ou de tunnel qui unirait les espaces intersidéraux? Les auteurs de SF, anticipation, nous en parlent depuis les années 50, à commencer aux États-Unis, beaucoup d'entre eux, comme Philip K. Dick, je vous en ai parlé, il y a eu Simak, il y a eu, enfin, quasiment tous les mecs qui parlaient de ça, quoi. Jusqu'à Liu Cixin, comme je vous ai parlé aussi dans les dernières barges russes, en 2022, dans son recueil de nouvelles, notamment, parce qu'il en a écrit bien. En tout cas, Liu Cixin, le chinois, 2022. Fin des 2020-2022. Donc, avec les Russes, les Amerlocs, les Américains, pardon, les Chinois, qui gardent toute leur documentation pour eux concernant ces avantages technologiques provenant de l'outre-espace. Qui pourrait. Parce que s'ils divulguaient, c'est leur découverte. Parce qu'il y en a, il n'a pas été écrit. On n'en saurait rien autrement. Tout ce qui a été dit, ce n'est pas des fuites. Enfin, je pense que c'est vraiment réel, tous ces témoins et tout. Enfin, tous les témoins ne sont pas réels, mais il y a des témoins qui sont vraiment là et qui sont réels. Et il y a même des matériaux. Le matériau, le fer, ça viendrait de la planète Mars. Bon, il y a longtemps. Hein. En tout cas, ils gardent tout pour eux. Et les Chinois, le peuple asiatique, le plus ancien, on y reviendra après, peut-être. Je ne sais pas. Donc, les enjeux géopolitiques sont ligaturés, ligotés à notre dimension et les convictions et croyances ont le pas sur nos manières de penser. Ça, on le sait tous. À présent, avec 1 million de dollars, on peut voyager dans l'espace. Mais c'est dans les autres dimensions que tout se joue, que des espaces-temps sont interconnectés. C'est ça, moi, qui m'intéresserait davantage que de voyager à côté de Mars. Je m'en fous un peu, quoi. J'ai vu des photos, ça me suffit. Par contre, les dimensions parallèles, je connais pas. Thank you. Continuer, je vais vous faire une petite lecture de petits morceaux que j'ai pris dans un livre que j'avais trouvé dans une librairie d'occasion à Bruxelles, qui s'appelle « Cosmogonie des Rose-Croix, philosophie ésotérique chrétienne ». Et les Rose-Croix, j'avais lu ça dans un bouquin, c'est pas une secte, mais bon, c'est peut-être pour certains c'est une secte et pour d'autres c'est pas, on peut pas appeler ça une secte. Mais bon, ça s'approche plus d'une secte qu'autre chose, je pense. Enfin bon, faites des recherches si vous avez envie, les Rose-Croix. Ça appartient, ouais, pas à une confrérie, mais bon. Alors j'ai fait une recherche sur les Rose-Croix, qui n'est, je vous dis, être une secte, en fait. Bon, alors sur Internet, ils mettent « Association mystique à audience universelle, libre de toute alliance religieuse, qui porte actuellement le nom d'ancien et mystique ordre Rose-Croix. Sa philosophie a pour objet d'éveiller toutes les facultés de l'homme en relation avec les lois cosmiques et naturelles. » Donc, page 295, les forces lunaires parviennent à l'humain parviennent à la distance exactement nécessaire pour lui permettre de construire un corps de densité suffisante. Mais quoique ces forces concourent à la construction de la forme, elles causent aussi la mort par une influence trop prolongée qui finit par cristalliser les tissus du corps. Le soleil est actif dans le corps vital. Il est la force vitale par excellence qui lutte contre la force cristallisante de la lune. Donc on retrouve ici un équilibre. L'équilibre, donc je vous rappelle, c'est de la philosophie chrétienne. Donc d'accord, c'est pas... Et ouais, donc l'influence aussi des champs magnétiques. Toujours la nuit vient équilibrer le jour, et le jour équilibre la nuit. Donc j'ai pris ça pour vous parler des champs magnétiques et de l'équilibre qui en ressort. Ensuite, bien que c'est là que j'ai trouvé que le métal venait de Mars. Bon, comme je vous disais. Voilà. Le fer est en réalité la base de l'existence. Attends. Bien que les corps du désir de la Terre et de Mars s'interpénètrent encore, le pouvoir dynamique de Mars sur le fer, qui est un métal martien, a cessé d'exister. Et le fer est devenu disponible sur notre planète pour l'usage de l'homme. Le fer est, en réalité, la base de l'existence distincte. Sans lui, il ne pourrait y avoir de sang rouge et chaud, et l'ego n'aurait pas de prise sur le corps. Où l'ego pouvait habiter à l'intérieur de son corps et le contrôler. Donc, c'est pas scientifique, pas trop scientifique, je pense, hein, quand même. C'est de la philosophie chrétienne, je le redis, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu attirés par les cheveux, et de trucs, mais ça reste intéressant. Le fond, on se dit, quand je vous parle du côté invisible, on se dit, bon, c'est le côté invisible qui joue. La science qui va l'expliquer dans notre dimension présente dans la réalité, pour qu'on puisse comprendre plus facilement, pour caser les choses. Mais pourquoi est-ce que la science est arrivée à montrer cette performance, ce phénomène? Eh bien, c'est peut-être aussi parce que le côté invisible l'a permis. Ça, tout ça, ce sont que des propositions. Moi, j'ai beaucoup de trucs à penser de cette manière, mais chacun voit midi à sa porte, hein, ça m'est complètement égal. Donc ensuite, j'ai pris... Époque atlantéenne. L'Atlantide. C'est bizarre qu'il parle de ça dans la philosophie chrétienne, mais bon. Les Lémuriens, je vous parlais du peuple chinois, enfin du peuple asiatique, la Mongolie, là-bas aurait été... C'est les derniers Atlantéens c'est là-bas qu'ils auraient été, quoi, échappés au cataclysme de l'Atlantide, c'est là-bas qu'ils auraient été. L'homme était guidé plutôt par sa faculté de vision intérieure que par sa perception visuelle, car, d'après ce qu'il dit encore, dans l'Atlantide, c'était tellement sombre à cause des volcans qui entraient en fusion sans arrêt. Il n'y avait pas beaucoup de visibilité, et donc c'était intérieur, quoi, au feeling. Le pouvoir de perception visuelle de l'Atlantéen était beaucoup plus actif dans les mondes intérieurs que dans les mondes physiques. Obscurci par son atmosphère d'épais et lourd brouillard, l'homme perdit graduellement contact avec les mondes intérieurs qui devinrent de plus en plus indistincts. Bon, voilà. Moi, dans les dernières Bergerus, j'ai appelé ça l'occidentalisation. Voilà. Mais bon, déjà, on ne voyait plus grand-chose avant. Hein. Donc là, je vous lis ça, je ne vous demande pas d'écouter mot pour mot ce que je dis, mais d'essayer de comparer ça par rapport à ce que je dis moi dans les Bergerus, par rapport au monde intérieur, le côté invisible, le fait de croire en soi avant de croire en ce qui nous est dit. Je vous donne un exemple de moi, on m'avait dit quelque chose. Et j'ai fait des recherches et c'était complètement faux. Alors que la personne qui me l'avait dit, bah, j'avais pas de raison de ne pas la croire. Ensuite, il est question de. Il apprenait correctement par perception spirituelle la manière d'agir avec ses semblables et comment se soustraire à ce qui pouvait le nuire. Donc là, il y a une harmonie. Une harmonie, et il jouait déjà avant par télépathie, vu qu'il ne pouvait pas se voir. C'était au feeling. Et ils évitaient le bazar, donc c'était l'harmonie. Le monde spirituel disparut graduellement par la conscience, en fait, par la raison. La raison qui est arrivée, qui a tout déjoué. Là, maintenant, un enfant, l'âge de raison, ça va être 3 ans bientôt. Ça a pu être 7 ans, mais ça va être 3 ans. Il ne donnait plus seulement au nom. Un nom aux objets qui les entouraient, mais dans leurs mots résidait un pouvoir qui influençait la chose nommée. C'est pas mal, ça, hein? Je redis, il ne donnait pas seulement un nom aux objets qui les entouraient, tiens, c'est une pomme, mais dans leurs mots résidait un pouvoir qui influençait la chose nommée. Ils arrivaient à, tiens, c'est une pomme, elle est bonne, cette pomme. Là, ils conditionnaient aussi la pomme pour qu'elle soit bonne, tu vois. C'était balèze, c'était pas mal, hein? Ah ouais, c'était vraiment cool, ça. Ils ne se nuisaient jamais les uns aux autres. Ouais, l'harmonie, comme je disais, le langage était quelque chose de sacré. Ouais, c'est dommage que ça l'ait moins aujourd'hui. Pour la première fois, en contact avec l'âme des choses dans le monde extérieur. Ouais, c'est ça. C'est à l'instinct et non à la raison qu'on faisait appel. C'est l'instinct qu'on essayait d'éveiller. Alors qu'aujourd'hui, c'est la raison. La raison et la science. L'instinct, tu dis que tu as de l'instinct, il faut que tu travailles ton instinct, il faut que tu te poses des questions et afin de pouvoir éventuellement rentrer en télépathie avec tout ce qui t'entoure et les gens et comprendre les choses et devenir clairvoyant. Non. Voilà, non. T'es un gros nul, toi. Non, c'est la raison qui. Non, il faut avoir. C'est la raison. La raison de l'occidentalisation. La raison du conditionnement. C'est ça, aujourd'hui. C'est pas l'instinct. Ben, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je me sers de mon instinct. J'attache pas mon chien quand je vais le promener. Et il s'en va pas sous les roues des voitures. Et quand je l'appelle, il vient me voir. Voilà. Bon, c'est l'instinct, je le sens. Mais par contre, quand je sens qu'il faut que je l'attache, ben, je l'attache. Et j'ai raison. Tant j'ai raison. Très souvent. Des fois, je peux le laisser. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout de ta vie. Bah oui, c'est vrai. On n'en a rien à foutre.
Je ne fais que mercredi. escapade.
Tous des schizos.